Chapitre 4. La profonde influence exercée par Marie Pavlovna sur la Maslova provenait ainsi de ce que la Maslova aimait Marie Pavlovna. Mais une autre influence s'exerçait en même temps sur la jeune femme, l'influence de Simonson, et celle-là provenait de ce que Simonson était amoureux de la Maslova. Tous les hommes vivent et agissent en partie d'après leurs propres idées, en partie d'après les idées d'autrui. Et une des principales différences entre les hommes consiste dans la mesure différente où ils s'inspirent de leurs propres idées et de celles d'autrui. Les uns se bornent le plus souvent à ne se servir de leurs propres pensées que par manière de jeu. Ils emploient leur raison comme on fait tourner les roues d'une machine quand on a ôté la courroie qui les relie l'une à l'autre. Et dans les circonstances importantes de la vie, et même dans le détail de leurs actes les plus ordinaires, ils s'en remettent à la pensée d'autrui, qu'ils nomment l'usage, la tradition, les convenances, la loi. D'autres, au contraire, en plus petit nombre, considèrent leur propre pensée comme le principal guide de leur conduite et s'efforcent, autant qu'ils peuvent, de n'agir que d'après les avis de leur raison à eux. C'est à cette seconde espèce d'homme qu'appartenait Simonson. Il ne prenait jamais conseil que de sa propre pensée, et ce qu'il avait décidé qu'il devait faire, il le faisait. Sa raison lui avait affirmé, pendant qu'il était encore au collège, que la fortune possédée par son père, riche magistrat, était acquise injustement. Et aussitôt, il avait déclaré à son père que cette fortune devait être restituée au peuple. Puis, comme son père, loin de vouloir l'écouter, l'avait grondé, il avait quitté la maison paternelle et renoncé à jouir jamais d'aucun des avantages de sa condition. Il avait ensuite décidé, toujours en ne s'inspirant que de sa raison, que tout le mal qui existait en Russie avait pour unique cause l'ignorance du peuple, et en conséquence, sitôt sorti de l'université, il s'était fait nommer maître d'école dans un village et s'était mis à expliquer, aussi bien à ses élèves qu'à tous les paysans, ce qu'il estimait qu'il devait savoir. Il avait été arrêté et jugé. Au moment de comparaître devant le tribunal, il avait décidé que les juges n'avaient pas le droit de le juger, et tout de suite, il le leur avait dit. Et comme les juges, sans admettre sa thèse, continuaient à vouloir le juger, il avait pris le parti de ne pas leur répondre. En effet, il n'avait plus dit un mot jusqu'à la fin du procès. Reconnu coupable, il avait été condamné à la déportation dans une petite ville du gouvernement d'Arkhangelsk. Là, il s'était constitué une doctrine religieuse qui, depuis lors, le dirigeait dans toute sa conduite. Cette doctrine consistait à admettre que tout dans l'univers était vivant, que la mort n'existait pas, que tous les objets qui nous paraissent inanimés n'étaient que des parties d'un grand ensemble organique, et que par suite, le devoir de l'homme était d'entretenir la vie de ce grand organisme dans toutes ses parties. Il en concluait que c'était chose criminelle d'attenter à la vie sous quelque forme que ce fût. Il n'admettait donc ni la guerre, ni les prisons, ni le meurtre des animaux. Il avait aussi une théorie à lui sur le mariage et les relations sexuelles. Il considérait ces relations comme inférieures et disait que la préoccupation de faire des enfants, l'amour pour lui se réduisait à cela, avait pour effet de nous détourner d'un objet autrement utile et digne de nos soins, qui était de secourir les êtres déjà vivants et de rendre ainsi plus parfaite la vie de l'univers. Les hommes supérieurs, d'après lui, en évitant les relations sexuelles, devenaient pareils à ces globules du sang dont la destination est de venir en aide aux parties faibles, malades de l'organisme. Et depuis qu'il s'était avisé de cette théorie, il y conformait ses actes, après avoir agi tout autrement durant sa jeunesse. L'amour qu'il éprouvait à présent pour la Maslova aurait eu de quoi le mettre en désaccord avec ses principes. Mais il avait décidé que ce n'était pas là un désaccord véritable, car il entendait bien n'aimer jamais la Maslova que d'un amour tout fraternel. Et il se disait même qu'un tel amour, loin de l'entraver dans sa mission de bienfaiteur de l'humanité, ne pourrait au contraire que l'y encourager. Et non seulement il ne s'en remettait qu'à sa propre raison pour trancher toutes les questions théoriques, mais en pratique aussi il ne prenait jamais conseil que de lui-même. Sur tous les détails de la vie pratique, il avait des théories à lui, qu'il suivait obstinément. Il en avait sur le nombre d'heures qu'on devait consacrer au travail, et sur le nombre d'heures qu'on devait consacrer au repos, et sur la façon dont on devait se nourrir, et sur la façon dont on devait se vêtir, et sur le meilleur mode d'éclairage, de chauffage, etc. Avec tout cela, ce Simonson était par nature d'une timidité extrême. Jamais il ne cherchait à se mettre en vue, à se faire valoir, à imposer ses opinions à autrui. Mais quand il avait décidé qu'il devait faire certaines choses, personne au monde ne pouvait l'empêcher de la faire. Tel était l'homme qui, de tout son cœur, était devenu amoureux de la Maslova. Celle-ci, avec son flair de femme, avait tout de suite deviné chez lui ce sentiment. Et l'idée qu'elle avait pu inspirer de l'amour à un homme aussi extraordinaire l'avait rehaussée à ses propres yeux. Quand Nekhludoff lui avait offert de se marier avec elle, elle avait bien compris que c'était par grandeur d'âme et pour réparer sa faute passée. Tandis que Simonson l'aimait telle qu'elle était maintenant, et l'aimait simplement parce qu'il l'aimait. Et elle se disait que pour l'aimer ainsi, Simonson devait la considérer comme une femme différente des autres, ayant des qualités morales que les autres n'avaient pas. Ce qu'étaient ces qualités morales qu'il pouvait lui attribuer, elle ne parvenait pas à le deviner. Mais afin de justifier la haute opinion qu'il devait avoir d'elle, elle s'efforçait, par tous les moyens, de faire naître en elle les sentiments les meilleurs qu'elle était capable d'imaginer. De sorte que, sous l'influence de Simonson, elle s'efforçait de devenir aussi parfaite que sa nature le lui permettait. La chose avait commencé depuis longtemps déjà. Dans la cour de la prison, la Maslova avait été frappée de l'insistance avec laquelle la fixait les bons et naïfs yeux bleus de ce prisonnier en veste de caoutchouc. Et dès lors, elle avait compris que cet homme, qui la regardait d'une façon aussi bizarre, devait être lui-même un personnage bizarre. Et elle avait remarqué l'extraordinaire contraste, dans un même visage, de l'austère sévérité qu'exprimaient les sourcils froncés, avec la douceur enfantine qui se lisait dans les yeux. Plus tard, à Tomsk, quand elle avait obtenu d'être transférée parmi les condamnés politiques, elle avait revu son étrange amoureux. Et bien que pas une parole n'eût été échangée entre eux à ce moment, la façon dont ils s'étaient regardés l'un l'autre avait suffi pour les unir dès lors d'une amitié spéciale. Aussi bien n'y avait-il pas eu entre eux, les jours suivants non plus, d'entretien intime. Mais la Maslova sentait que lorsque Simonson parlait en sa présence, ses discours s'adressaient à elle, et que c'était pour elle qu'il s'efforçait de parler aussi lentement, aussi clairement que possible. Et elle l'écoutait avec joie. Et lui, il ne se lassait pas de parler pour elle, et surtout pendant les longues marches qu'il faisait à pied, derrière le convoi des condamnés criminels. Chapitre 5. Dans le long trajet du convoi depuis son départ de la prison jusqu'à Perm, Nekhludoff n'avait pu voir la Maslova que deux fois. Il l'avait vue d'abord à Nijni Novgorod, dans le parloir de la prison, à travers une grille, et une seconde fois à Perm, également dans un parloir de prison. Les deux fois, il l'avait trouvée silencieuse et froide. Quand il lui avait demandé si elle n'avait besoin de rien, elle lui avait répondu d'un ton sec et contraint, qui lui avait rappelé la façon malveillante dont elle l'avait accueilli naguère dans la prison. Et il s'était fort affligé de cette disposition hostile, ne sachant pas qu'elle provenait surtout de l'irritation produite chez la Maslova par les continuelles instances dont elle était l'objet de la part des prisonniers et des gardiens du convoi. Il craignait que, sous l'influence des conditions pénibles et immorales où elle se trouvait, elle ne retombât dans son ancien état de découragement, comme aussi de haine pour elle-même et les autres. Il craignait que de nouveau elle ne se remît à le détester, que de nouveau elle ne cherchât l'oubli dans le tabac et l'eau-de-vie. Mais il n'avait rien pu faire pour lui venir en aide, les chefs du convoi s'étant strictement opposés à ce qu'il la vit. Et c'est seulement lorsqu'il avait obtenu le transfert de la Maslova dans la section des condamnés politiques, alors seulement il avait pu découvrir combien ses craintes étaient peu fondées. Car dès la première entrevue en tête-à-tête qu'il avait eue avec elle à Tomsk, il l'avait retrouvée telle qu'elle était lors de ses dernières visites à la prison. Loin de paraître gêné en l'apercevant, ou de prendre devant lui une attitude contrainte et sournoise, elle l'avait accueilli avec une joie sincère, le remerciant avec insistance de tout ce qu'il avait fait et faisait pour elle. Nekhludov avait même constaté que le changement qui s'était produit en elle commençait à se refléter jusque dans son apparence extérieure. Au bout de 2 mois de marche, elle avait maigri, sa peau s'était hâlée, les rides sur ses tempes et autour de sa bouche s'étaient accentuées. Et ni dans son vêtement, ni dans sa coiffure, ni dans ses attitudes, aucune trace ne restait plus de son ancienne coquetterie. Et la vue de ce changement causait à Nekhludov un plaisir sans cesse plus vif. Il éprouvait maintenant pour la Maslova un sentiment que jamais encore il n'avait éprouvé. Ce sentiment n'avait rien de commun avec son premier enthousiasme juvénile, ni avec le grossier désir sensuel qu'il avait ressenti plus tard, ni non plus avec le sentiment à la fois noble et égoïste qu'il avait éprouvé lorsque, en retrouvant Katyusha, il avait résolu de réparer sa faute envers elle et de l'épouser. Ce sentiment était le même mélange de pitié et de tendresse que, à plusieurs reprises, il avait éprouvé dans la prison. Mais avec cette différence que, jusque-là, il n'avait éprouvé ce sentiment que par intervalles, et en s'y efforçant, tandis qu'à présent, il l'éprouvait d'une façon naturelle et constante. À quoi qu'il pensât désormais, quoi qu'il fît, son cœur était rempli de ce mélange de tendresse et de pitié pour la Maslova. Et ce sentiment nouveau, comme jadis son premier amour, avait ouvert dans l'âme de Nekhludov les sources de pitié et de tendresse que la nature y avait mises, mais dont l'issue s'était trouvée fermée pendant de longues années. Depuis le commencement de son voyage, à la suite du convoi, en effet, Nekhludov se sentait dans un état d'exaltation sentimentale qui le contraignait, en quelque sorte malgré lui, à s'intéresser aux pensées et aux émotions de toutes les personnes qu'il voyait, depuis les cochers et les gardiens du convoi, jusqu'aux directeurs de prison et aux officiers de police. Le transfert de la Maslova dans la section des condamnés politiques avait fourni à Nekhludov l'occasion de faire connaissance avec bon nombre de ces condamnés, et notamment avec les 5 hommes et les 4 femmes qui faisaient partie de la même chambrée que la Maslova. Et ces relations de Nekhludov avec les condamnés politiques avaient complètement modifié son opinion sur eux, comme aussi sur le parti révolutionnaire russe pris en général. Depuis le début du mouvement révolutionnaire en Russie, Nekhludov avait éprouvé pour les représentants de ce mouvement un sentiment d'aversion et de malveillance. Il avait détesté surtout la cruauté et la dissimulation des moyens employés par eux dans leur lutte contre l'autorité, leurs conspirations, leurs attentats criminels. Et il avait été indigné aussi de la suffisance, du contentement de soi, de l'insupportable vanité qu'il savait être autant de traits communs à la plupart des révolutionnaires. Mais lorsqu'il connut ces révolutionnaires de plus près, lorsqu'il apprit la façon dont ils étaient traités par l'autorité, il comprit que ces hommes ne pouvaient pas être différents de ce qu'ils étaient. Car, pour affreuses et absurdes que fussent les tortures infligées à ceux qu'on est convenu d'appeler les criminels de droit commun, ces tortures, avant et après le jugement, gardaient du moins une apparence de légalité. Tandis que dans la façon dont on traitait les détenus politiques, cette apparence même faisait défaut. Nekhludov, au reste, l'avait bien vu déjà à Pétersbourg, dans l'aventure de la Tchoustova. Mais mieux encore, il le voyait à présent, en écoutant les récits des compagnons de Katyusha. Il voyait que la façon dont on traitait ces malheureux ressemblait tout à fait à la façon dont on pêche le poisson dans les étangs. Après avoir tiré le filet, on jette sur le bord tout le poisson qu'on a pu attraper. Et puis on garde les grosses pièces, sans s'inquiéter du fretin qu'on laisse mourir sur le sable. De même, on procédait dans la pêche révolutionnaire. On empoignait au hasard, par centaines, des personnes dont beaucoup étaient manifestement innocentes et hors d'état de nuire à l'autorité. On les gardait, souvent pendant des années, dans les prisons, où elles devenaient phtisiques, ou perdaient la raison, ou se tuaient. Et on les gardait ainsi simplement parce qu'on n'avait pas de motif pour les relâcher, ou parce qu'on trouvait plus commode de les avoir sous la main en vue de certains témoignages qu'elles pouvaient fournir. Le sort de ces personnes, innocentes même au point de vue strictement légal, dépendait du caprice, du loisir, de l'humeur d'un officier de police, ou d'un procureur, ou d'un juge d'instruction, ou d'un gouverneur, ou d'un ministre. Suivant qu'un de ses fonctionnaires voulait faire du zèle, ou bien préférait vivre tranquille, il arrêtait en masse les jeunes gens suspects de s'occuper de politique. Ou bien il les laissait tous libres, et les ayant fait arrêter, il les gardait en prison ou les relâchait. Et pareillement, c'était l'arbitraire seul des gouverneurs et des ministres qui décidait ce qui devait advenir ensuite de ces détenus. Pour les mêmes délits, les uns étaient déportés au bout du monde, d'autres tenus en cellule, d'autres envoyés aux travaux forcés, d'autres condamnés à mort, et d'autres encore relâchés lorsqu'une dame élégante leur faisait la grâce de s'occuper d'eux. On agissait envers ces malheureux comme on agit envers des ennemis en temps de guerre. Et eux, de leur côté, ils employaient dans leur lutte les mêmes procédés qu'on employait contre eux. Et de même qu'en temps de guerre, officiers et soldats se sentent autorisés par l'opinion générale à commettre des actes qui en temps de paix sont tenus pour criminels, de même les révolutionnaires, dans leur lutte, se regardaient comme couverts par l'opinion de leur cercle, en vertu de laquelle les actes de cruauté qu'ils commettaient étaient nobles et moraux, et commis par eux au prix de leur liberté, de leur vie, de tout ce qui est cher à la plupart des hommes. Ainsi s'expliquait pour Nekhludov ce phénomène extraordinaire que des personnes excellentes, incapables non seulement de causer une souffrance, mais même d'en supporter la vue, pussent se préparer tranquillement à la violence et au meurtre, et professer la sainteté de tels actes, considérés comme moyens de défense, ou encore comme instruments utiles à la réalisation d'un idéal de bonheur pour l'humanité. Et quant à la haute idée que les révolutionnaires se faisaient de leur œuvre, et par suite d'eux-mêmes, cette idée découlait tout naturellement de l'importance que leur attribuaient leurs adversaires et de la cruauté exceptionnelle qu'ils apportaient à les combattre, sans compter que les malheureux étaient obligés d'avoir d'eux-mêmes cette haute idée et qu'elle contribuait à leur donner la force de supporter la vie de souffrance qui leur était faite. À les connaître de plus près, Nekhludov s'était convaincu qu'ils n'étaient ni de ténébreux malfaiteurs, comme le croyaient certaines personnes, ni non plus de parfaits héros, comme l'imaginaient d'autres personnes, mais simplement des hommes ordinaires, parmi lesquels se trouvaient, de même que partout, des hommes bons, d'autres méchants, et une majorité d'hommes médiocres. Des hommes se trouvaient parmi eux qui étaient devenus révolutionnaires parce que, très sincèrement, ils se regardaient comme tenus de lutter contre le mal. D'autres s'y trouvaient qui étaient devenus révolutionnaires pour des motifs égoïstes, par ambition ou par vanité. Mais la plupart étaient devenus révolutionnaires sous l'effet d'un sentiment que Nekhludov comprenait bien et avait lui-même éprouvé pendant qu'il faisait la guerre contre les Turcs. Le sentiment qui pousse les jeunes gens à désirer le danger, à s'exposer à des risques, à varier de la fièvre d'un jeu la monotonie de leur vie. La principale différence que Nekhludov découvrait entre les condamnés politiques et l'ordinaire des hommes consistait en ce que l'obligation morale, telle que l'entendaient ces condamnés, était plus haute qu'elle ne l'est pour l'ordinaire des hommes. Pour eux, en effet, le devoir n'impliquait pas seulement la résistance aux fatigues et aux privations, et la franchise et le désintéressement, mais aussi le sacrifice de tous les biens et de la vie même au profit de l'œuvre commune. De là venait que parmi les révolutionnaires, ceux qui étaient naturellement supérieurs au niveau moyen représentaient des types très remarquables d'élévation morale. Tandis que chez ceux d'entre eux qui étaient naturellement inférieurs au niveau moyen, cette infériorité s'accusait avec un relief tout particulier, par son contraste avec l'idéal moral que ces hommes professaient. Et c'est ainsi que Nekhludov s'était pris d'une très vive affection pour quelques-uns des déportés qui faisaient route avec la Maslova, tandis que pour quelques autres, au contraire, il éprouvait une indifférence mêlée d'antipathie. Chapitre 6. De tous les condamnés politiques qui faisaient partie de la même chambrée que la Maslova, aucun ne plaisait autant à Nekhludov qu'un jeune phtisik nommé Kriltsov. Nekhludov avait fait connaissance avec lui dès Ekaterinenburg, et très souvent, depuis lors, il avait eu l'occasion de s'entretenir avec lui. Un jour même, pendant un repos de convoi, il avait passé la journée presque tout entière en sa compagnie, et Kriltsov, mis en humeur de causer, lui avait raconté toute son histoire. Son histoire était d'ailleurs fort courte, du moins jusqu'au moment de son arrestation. Il avait perdu de très bonne heure son père, riche propriétaire des environs de Kiev, et avait été élevé par sa mère, dont il était l'unique enfant. Au collège, puis à l'université, il avait fait de brillantes études. Il avait eu le premier rang dans tous les concours et passait, dès l'âge de 20 ans, pour un mathématicien d'une haute valeur. Ses professeurs l'engageaient à aller encore suivre des cours à l'étranger pour devenir professeur d'université. Mais Kryltsov hésitait. Il aimait une jeune fille, voisine de campagne de sa mère. Il songeait à se marier avec elle et à vivre dans ses terres. Or, pendant qu'il se demandait ainsi ce qu'il devait faire, ses camarades de l'université l'avaient prié de leur donner de l'argent pour ce qu'ils appelaient l'œuvre commune. Et lui, il n'ignorait pas que cette œuvre commune était une œuvre révolutionnaire, et cette œuvre ne l'intéressait en aucune façon. Mais il n'en avait pas moins donné l'argent, par un sentiment de camaraderie, et un peu aussi par fierté, afin qu'on ne pût pas dire qu'il avait eu peur. L'argent avait été saisi par la police. On avait trouvé un papier indiquant que c'était Kryltsov qui l'avait donné, et celui-ci avait été arrêté et mis en prison. Il racontait tout cela à Nekhludov, assis sur sa haute couchette, une couverture sur les genoux, fixant dans le vide devant lui le regard fiévreux de ses grands yeux noirs. Dans la prison où on l'avait mis, disait-il, le régime était relativement peu sévère. Non seulement nous pouvions nous faire des signaux, mais nous pouvions même nous rencontrer dans les corridors, bavarder, partager entre nous nos provisions et notre tabac, et le soir chanter en chœur. J'avais une belle voix, et ces chants du soir me plaisaient beaucoup. Sans la pensée du chagrin de ma mère, que mon arrestation désespérait, j'aurais été parfaitement heureux. J'avais fait connaissance de plusieurs figures très intéressantes, et notamment du célèbre Petrov, qui, plus tard, s'est tranché la gorge avec un morceau de verre. Mais je n'étais toujours pas révolutionnaire et ne me sentais nullement disposé à le devenir. Un jour, on amena dans la prison et l'on me donna pour voisin deux jeunes gens qui, envoyés en Sibérie pour avoir distribué des proclamations polonaises, avaient essayé de s'enfuir durant le trajet du convoi. L'un d'eux était un Polonais, Lozinski. L'autre, nommé Rosenberg, était d'origine juive. Ce Rosenberg n'était encore qu'un enfant. Il prétendait avoir 17 ans, mais on voyait bien qu'il en avait à peine 15. Petit, maigre, avec des yeux noirs pleins de feu, remuant, bavard, et comme tous les juifs, très bon musicien. Sa voix n'avait pas encore mué, et c'était un bonheur de l'entendre chanter. Tous deux passèrent en jugement quelques jours après leur arrivée à la prison. On vint les prendre le matin. Le soir, en rentrant, ils nous apprirent qu'on les avait condamnés à mort. Personne ne s'était attendu à cela. Ils avaient bien essayé de résister quand on les avait rattrapés, mais ils n'avaient blessé personne. Et puis, jamais l'idée ne nous serait venue que l'on pût condamner à mort un enfant, comme était ce Rosenberg. Aussi fûmes-nous d'avis, dans toute la prison, que la condamnation n'avait eu pour objet que de les effrayer et ne recevrait pas son exécution. L'émotion que nous avait causée cet événement finit donc par se calmer et notre vie recommença comme par le passé. Mais voilà qu'un soir le gardien s'approche de moi et m'annonce en grand mystère que les ouvriers sont venus préparer la potence. Je restais d'abord sans comprendre. La potence? Quelle potence? Et le vieux gardien paraissait si ému que, en relevant les yeux sur lui, je compris tout. J'aurais voulu faire des signaux, prévenir mes camarades, mais je craignis que mes deux voisins ne m'entendissent. D'ailleurs, mes camarades devaient être prévenus, eux aussi, car dans les corridors et les cellules, un silence de mort s'était fait tout à coup. Personne n'eut l'idée ce soir-là de chanter, ni même de parler. Vers 10 heures, le vieux gardien vint de nouveau à moi et m'apprit que le bourreau allait arriver de Moscou. Il me dit cela et s'éloigna. Je le rappelai pour lui demander d'autres renseignements, lorsque Rosenberg me cria de sa cellule « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'appelez-vous ?» Je lui répondis que c'était pour avoir du tabac. Mais évidemment, Rosenberg se doutait de quelque chose, car il me demanda ensuite, d'une voix agitée, pourquoi on n'avait pas chanté et pourquoi on ne disait rien. Je ne me rappelle plus ce que je lui répondis, mais je sais que je fis semblant de m'endormir pour couper court à cet entretien. Je ne dormis point, cependant, de toute la nuit. Une nuit épouvantable. Jamais je ne pourrais en oublier l'horreur. Je restai immobile sur mon lit, guettant le moindre bruit, tremblant comme si c'était moi-même qui dusse être pendu. Au petit jour, j'entendis s'ouvrir les portes du corridor, et des pas nombreux se rapprochaient de nous. Je me levai, je courus au judas de ma cellule. Le corridor n'était éclairé que d'une petite lampe. Je vis passer d'abord le directeur de la prison. C'était un gros homme, toujours content de lui, et portant la tête haute. Mais ce jour-là, il était pâle, sombre, et marchait les yeux baissés. Derrière lui venait un officier de police, suivi de deux gendarmes. Ces quatre personnes passèrent devant ma cellule pour s'arrêter quelques pas plus loin. Et j'entends l'officier qui s'écrie d'une voix singulière « Lozinski, levez-vous, mettez une chemise blanche. » Puis un grand silence. Puis j'entends une porte s'ouvrir, j'entends les pas de Lozinski sortant de sa cellule. Par mon judas, je ne pouvais voir que le directeur. Il se tenait là, pâle et défait, tirant ses moustaches sans relever la tête. Et tout d'un coup, je le vois qui recule, comme épouvanté. C'était Lozinski qui venait de passer devant lui pour s'approcher de la porte de ma cellule. Un beau jeune homme, ce Lozinski. Vous savez, de ce charmant type polonais. Un front large et droit, de fins cheveux blonds sortant de la casquette, et de beaux yeux bleus comme des yeux d'enfant. Un garçon plein de santé et de vie, une vraie fleur humaine. Il s'était arrêté devant mon judas, de telle sorte que je pouvais voir son visage tout entier. Un visage terrible à voir, à la fois souriant et sombre. « Kriltsov, avez-vous une cigarette ?» Je voulais lui passer une cigarette, lorsque le directeur, avec un empressement fébrile, tira son étui et le lui présenta. Lozinski prit une cigarette. L'officier lui donna du feu, et il se mit à fumer, la mine pensive. Et soudain, relevant la tête, comme s'il s'était rappelé quelque chose, « C'est injuste !» « Je n'ai rien fait de mal, je... » Un frémissement secoua sa jeune gorge blanche, de laquelle je ne pouvais détacher mes yeux, et il se tut. Au même instant, j'entends Rosenberg, qui, dans sa cellule, se mettait à crier de sa voix perçante de juif. Lozinski jeta sa cigarette et s'écarta de ma porte. Et ce fut Rosenberg qui se plaça devant elle. Son visage d'enfant, avec ses petits yeux noirs, était rouge et couvert de sueur. Il avait revêtu, lui aussi, une chemise propre. Son pantalon était trop large. Il ne cessait pas de le relever de ses deux mains, et tout son corps ne cessait pas de trembler. Il approcha de mon judas son visage hagard. « Anatole Petrovitch, n'est-ce pas que c'est vrai que le médecin m'a ordonné de la tisane ? Je suis malade. Je veux encore boire de la tisane. » Personne ne lui répondait. Et lui, il jetait des regards suppliants, tantôt sur moi, tantôt sur le directeur. Ce qu'il voulait dire avec sa tisane, jamais je ne l'ai su. De nouveau, l'officier éleva la voix, cette fois d'un ton sévère. « Allons, pas de plaisanterie, en avant !» Mais Rosenberg, évidemment, était hors d'état de comprendre ce qu'on voulait de lui. Il se mit d'abord à courir dans le corridor. Puis il s'arrêta, et j'entendis ses supplications entremêlées de sanglots. Puis les sons devinrent plus lointains, toujours plus lointains. La porte du corridor se referma, et je n'entendais plus que par instant les cris de détresse du petit Rosenberg. Et on les pendit. Un gardien qui avait assisté à la scène me raconta que Lozinski s'était fort bien laissé faire, mais que Rosenberg s'était longtemps débattu, de sorte qu'on avait dû le porter sur l'échafaud et lui mettre de force la tête dans le nœud coulant. Ce gardien était un petit homme, abruti par la boisson. On m'avait dit que c'était terrible à voir, Barine. Eh bien, pas du tout. Aussitôt qu'ils ont eu le cou dans le nœud, ils ont fait deux fois un mouvement d'épaule. Alors le bourreau a resserré le nœud et tout a été fini. Rien de terrible, je vous assure. Longtemps, Kriltsov resta silencieux, après avoir achevé ce récit. Nekhludov voyait que ses mains tremblaient et qu'il faisait effort pour retenir ses sanglots. « C'est depuis ce jour-là que je suis devenu révolutionnaire, » reprit-il quand il se fut calmé. Et il raconta en quelques mots la fin de son histoire. Il s'était affilié au parti des populistes et était devenu le chef d'un groupe qui se proposait pour objet de terroriser le gouvernement de façon à ce que celui-ci renonçât au pouvoir et fît appel au peuple. Au nom de son groupe, il s'était rendu à Pétersbourg, avait voyagé à l'étranger, était revenu à Kiev puis à Odessa, et partout avait pu agir sans être inquiété. Un homme en qui il avait toute confiance l'avait dénoncé. On l'avait arrêté, tenu en prison pendant 2 ans, et enfin condamné à mort. Mais sa peine avait été commuée en celle de travaux forcés à perpétuité. Dans la prison, il était devenu phtisique. Et maintenant, dans les conditions où il se trouvait, c'est à peine s'il avait encore quelques mois à vivre. Il le savait, et n'en montrait nul chagrin. Il disait à Nekhludov que si on lui avait rendu une seconde vie, il l'aurait employé de la même façon, pour travailler à renverser un ordre de choses qui permettait tant d'injustice et de cruauté. Et l'histoire de ce malheureux, et toute sa personne, avait achevé d'expliquer à Nekhludov bien des choses que jusque-là il ne comprenait pas.